Vieux palais omeyyade datant de la fin du 7e siècle. Un palais de plaisir. Un rendez-vous de chasse où les califes de Damas venaient chasser les gazelles. Entendre de la musique et boire. Boire avec leurs compagnons le vin si épais, si épicé, si fort qu'il fallait le couper avec de l'eau. Les poètes de l'époque décrivaient ce mélange, racontait Sarah. La rencontre du nectar et de l'eau était explosive. Des étincelles surgissaient. Dans la coupe, le mélange était rouge comme l'œil du coq. Il y avait eu à Castrel Air, expliquait Bilger, de magnifiques fresques de scènes de chasse et de beuverie. De chasse et de beuverie, mais aussi de musique. Sur une des plus célèbres, on voit un musicien avec un luth accompagner une chanteuse. Et même si, bien évidemment, ces fresques avaient été déplacées, l'idée de voir ce fameux château nous excitait au plus haut point. Bien sûr, j'ignorais que c'était Aloïs Musil qui avait redécouvert et décrit ce château pour la première fois au cours de sa seconde expédition. Pour y parvenir, il fallait suivre la petite route asphaltée plein nord pendant une vingtaine de kilomètres, puis virer à l'est sur le dédale de pistes qui s'enfonçait dans le désert. Notre carte était très succincte, mais Bilger se faisait fort de trouver le château en question, où il était déjà allé et qui, disait-il, se voyait de très loin comme une forteresse. Le soleil de l'après-midi se reflétait blanc sur les pierriers. Ça et là, au milieu de la monotonie, poussait on ne sait comment un buisson d'épineux pelés. De loin en loin, on apercevait un petit groupe de tentes noires. Cette partie de la badie n'était pas plate, loin de là, mais les reliefs ne possédant aucune végétation particulière, ni aucune ombre, on avait le plus grand mal à les appréhender. Une tente aperçue une seconde plus tôt disparaissait soudain derrière une hauteur invisible, comme par magie, ce qui rendait l'orientation encore plus compliquée. Parfois on descendait dans de larges dépressions, des cirques, où on aurait pu cacher sans difficulté tout un régiment de méharistes. Le 4x4 brinque-ballait sur les cailloux et commençait à faire des bonds spectaculaires dès que Bilger dépassait les 30 à l'heure. Il fallait qu'il parvienne à 60 afin que, volant pour ainsi dire sur les pierres, la machine vibre beaucoup moins et que les passagers ne soient pas secoués comme dans un fauteuil de massage infernal. Mais cette vitesse demandait une grande concentration. Une bosse soudaine, un trou ou un gros caillou envoyait valdinguer la bagnole. Le crâne de ses occupants heurtait alors violemment le plafond et la mécanique grinçait affreusement. Bilger était donc accroché des deux mains à son cerceau, les dents serrées, les yeux fixés sur la piste. Les muscles de ses avant-bras saillaient, les tendons du poignet apparents. Il me faisait penser à un film de guerre de mon enfance, où un soldat de l'Afrika Korps conduisait une jeep à tombeau ouvert quelque part en Libye, non pas sur du sable comme de coutume, mais sur des pierres aiguës et coupantes, et le soldat suait, les doigts blanchis par la pression sur le volant, comme Bilger. Sarah ne paraissait pas se rendre compte de la difficulté de l'exercice. Elle nous lisait en français et à haute voix la nouvelle d'Anne-Marie Schwarzenbach des Beni Zainab, la rencontre à Palmyre avec Marga d'Andurin, dont il avait tant été question la veille. Nous lui demandions régulièrement si lire dans des circonstances pareilles ne lui donnait pas mal au cœur, mais non, malheureusement, à part les sursauts du livre devant ses yeux au gré des chaos, rien ne paraissait la gêner. Bilger ne se privait pas de faire des remarques ironiques. En allemand, bien sûr. « Tu as bien fait d'apporter un livre audio. C'est agréable pendant les longs voyages. Ça me permet d'améliorer mon français. » J'aurais tant aimé être près d'elle sur le siège arrière. J'espérais sans trop y croire que la nuit prochaine nous partagerions de nouveau la même couverture et que cette fois-ci, je trouverais le courage de me jeter à l'eau, ou plutôt à la bouche. Bilger disait que nous serions sans doute obligés de bivouaquer à Castrel Air. Impossible de rouler dans le désert la nuit, ce qui arrangeait bien mes affaires. J'allais être exaucé, pas exactement dans le sens de mes espérances, mais néanmoins exaucé, nous dormirions dans le désert.